VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Yaoundé, bienvenue à notre journal. Au Cameroun, 4 civils tués aujourd'hui dans un double attentat suicide à Kerouarua, localité de l'extrême nord du pays frontalier du Nigeria. Une région régulièrement attaquée par les islamistes de Boko Haram. Selon une source sécuritaire locale, il y a également beaucoup de blessés. Crise au Burundi, au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, les dirigeants africains se prononceront lors d'un vote inédit en fin de semaine sur le déploiement d'une force au Burundi malgré l'opposition du gouvernement burundais. Le point avec Anna Botson.
Une majorité des deux tiers est requise pour autoriser l'envoi de cette mission africaine de prévention et de protection au Burundi, MAPROBU, décidée par le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine en décembre, mais que le président burundais, Pierre Nkurunziza, qui n'a pas encore fait savoir s'il assisterait au sommet, a promis de combattre comme une force d'invasion et d'occupation. Le sommet de l'UA devrait également décider du sort de la médiation ougandaise, incapable pour l'heure de faire reprendre les négociations entre le camp de Nkurunziza et le large front de ses adversaires, alors que les membres du Conseil de sécurité poussent pour un rôle accru de l'ONU dans ces discussions. Outre la crise burundaise, les chefs d'État et de gouvernement se pencheront sur l'impasse dans l'application de l'accord de paix devant mettre fin à 2 ans de guerre civile et d'atrocités au Soudan du Sud, les attaques djihadistes au Sahel, au Nigeria et aux alentours, l'instabilité politique en Libye et le processus électoral en cours en Centrafrique. Parallèlement, le sommet devrait élire, comme chaque année, le nouveau président de l'organisation. Le poste honorifique change tous les ans de région, cette année étant le tour de l'Afrique centrale, le nom du chef de l'État tchadien, Idriss Déby, circule pour remplacer son homologue zimbabwéen, Robert Mugabe.
Congo-Kinshasa, le gouvernement de la République démocratique du Congo a remis hier un arsenal anti-émeute à la police, provoquant l'inquiétude des défenseurs des droits de l'homme à 11 mois d'élections incertaines. Selon la MONUSCO, la mission onusienne sur place, les agents étatiques congolais sont responsables de 49% des abus dans le pays. José Maria Aranaz est le directeur du bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme en RDC.
En total, on a enregistré 3847 violations des droits de l'homme, les agents étatiques. Ils sont commis aussi 294 exécutions extrajudiciaires. On a documenté aussi 260 violations des droits de l'homme qui ont des relations avec le processus électoral, une tendance préoccupante à la restriction de l'espace politique et de la restriction de la liberté publique, contraire à l'esprit des élections crédibles.
José Maria Aranaz au micro de Thierry Kambundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Cour pénale internationale de La Haye aux Pays-Bas. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo a plaidé aujourd'hui non coupable à l'ouverture de son procès pour crimes contre l'humanité, 5 ans après les violences post-électorales ayant déchiré la Côte d'Ivoire. Je plaide non coupable, a souligné Laurent Gbagbo après lecture des charges par un représentant du greffe, à savoir meurtre, viol, acte inhumain et persécution. Son allié et co-accusé Charles Blé Goudé, ancien chef de milice, a lui aussi plaidé non coupable. Amnesty International attend de ce procès la manifestation de la vérité. On écoute Gaëtan Moutou, chercheur au sein de l'Organisation de défense des droits humains, basé à Londres.
Amnesty souhaite que le tribunal ne s'arrête pas uniquement à ce symbole d'un ancien chef d'État, puisque entre 2002 et la période post-électorale, il y a eu d'autres violations qui ont été commises à la fois par les partisans de Laurent Gbagbo et également par les partisans de Guillaume Soro dans les années 2002. Et ensuite, après, les partisans de Alassane Ouattara ont également commis des exactions dans des crimes très graves dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Peu de temps avant la chute de Laurent Gbagbo, il y a eu des exactions contre la population civile de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et nous estimons qu'il est important qu'on ne se focalise pas uniquement que d'un côté de la médaille. Il y a également deux faces d'une médaille. Donc ce serait important que le tribunal se penche également sur des exactions commises par d'autres parties liées à ce conflit.
Gaëtan Moutou, chercheur à Amnesty International. En Côte d'Ivoire, quelle est l'atmosphère à Yopougon, la banlieue d'Abidjan qui était considérée comme le fief de Laurent Gbagbo et des jeunes patriotes? Le point avec notre confrère Ligoa Aimé Ludovic de Radio Yopougon.
La ville n'a pas une ambiance particulière. C'est l'ambiance de tous les jours ici à Yopougon. Ce matin, la population s'est réveillée dans le calme. La population va à ses occupations. Le transport urbain se déroule normalement. Il n'y a pas d'incident, il n'y a pas de mouvement particulier, il n'y a pas de regroupement particulier ici à Yopougon. En ce qui concerne les jeunes patriotes, c'était d'abord les regroupements dans les parlements et agora. Lesquels parlements et agora n'existent pratiquement plus. Alors les rassemblements, même s'il doit en avoir, c'est peut-être des groupuscules de personnes qui peuvent se réunir soit à la maison ou chez un ami. Mais je pense que ça se passait dans la discrétion totale. Il faut dire que quand on sait que Yopougon est vraiment le fief de Laurent Gbagbo, une telle actualité, on devait s'attendre quand même à de grands rassemblements, de grandes mobilisations en guise de soutien à celui-là même qui constitue leur mentor, parlant donc des militants du FPI, mais ce n'est pas le cas.
Ligoa Aimé Ludovic de Radio Yopougon en Côte d'Ivoire. Au Niger, annonce hier de l'alliance de 4 candidats de l'opposition, dont Ama Amadou, l'ex-président du Parlement, pour appeler à voter pour celui qui serait le mieux placé en cas de deuxième tour de la présidentielle. L'objectif de cette coalition pour l'alternance 2016, baptisée COPA, semble clair, faire barrage au président Mahamadou Issoufou, candidat à un second mandat sous les couleurs du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Pas d'inquiétude en tout cas pour le président du PNDS, le parti au pouvoir. Mohamed Bazoum revient également sur la controverse du fichier électoral et de l'absence d'un million et demi d'électeurs lors des prochaines élections.
Ce serait dommage qu'un million et demi de Nigériens inscrits ne votent pas. Nous étions partis pour faire un fichier biométrique, donc on aurait disposé des photos et des empreintes digitales. Maintenant que nous avons un fichier ordinaire, ça pose problème. Nous devrions accepter que ces électeurs votent comme par le passé. Nous, nous avons toujours été dans l'opposition et nous avons toujours à l'époque accepté que l'on procède à des votes par témoignage. Hein. C'est l'état de l'état civil dans notre pays comme ça qui est exprimé à travers cette situation. Mais si l'opposition devait ne pas être d'accord avec cela, ce serait tant pis pour nous tous. Hein.
Mohamed Bazoum, président du parti au pouvoir au Niger. Et puis la Cour suprême du Nigeria a infirmé la décision d'une cour d'appel qui prévoyait l'annulation de l'élection du gouverneur de l'État pétrolier de Rivers dans le sud. La Cour a confirmé la victoire du candidat Naissam Wike. Le scrutin dans l'État de Rivers, un État crucial où se concentre la production pétrolière et gazière du premier producteur d'or noir d'Afrique, était une bataille clé pour le PDP et l'APC lors des élections des gouverneurs en avril.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Toujours concernant l'Afrique, la commission de toponymie de la province du Québec au Canada a entrepris une opération de collecte des noms des célèbres personnalités d'origine africaine en vue de les inclure dans sa base de données, des noms qui pourraient alors être donnés à des rues, des places et autres sites. C'est une manière pour la province canadienne d'honorer les Africains ayant marqué son histoire. Les explications de Chika Kanuri, éditeur du magazine Transatlantique à Montréal et l'un des contributeurs à cette initiative québécoise.
Nous, on avait déjà travaillé pour faire réhabiliter certaines personnes qui étaient africaines et noires qui étaient dans l'histoire du Canada, notamment Mathieu Dacosta, qui était le compagnon interprète de Samuel de Champlain lors de la fondation du Canada en 1604 et puis de la ville de Québec en 1608 et pour qui nous avons fait nommer une rue à Québec en 2008 au sommet de la francophonie d'ailleurs de Québec pour les 400 ans de la fondation de la ville. Puis il y a eu aussi Marie-Joseph Angélique, une esclave noire qui était née au Portugal et qui était amené ici, qui a été exécuté d'ailleurs ici après un procès bâclé en 1734. On l'avait accusé d'avoir brûlé une partie de la ville et puis on s'est rendu compte à la fin que c'était faux. Tout simplement, on la punissait puisque elle revendiquait beaucoup et qu'elle voulait se marier avec un blanc. Et donc, finalement, on l'a fait réhabiliter en 2012. Et avec il y a une grande place devant l'hôtel de ville de Montréal, au métro Champ de Mars, qui porte son nom, mais n'est pas encore inauguré.
Chika Kanuri, éditeur du magazine Transatlantique, joint à Montréal par Timothée Donangmaï. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.